Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous nous écoutez en podcast. Je reçois cette semaine Marion Quillard, une des deux rédactrices en chef de 21. 21, c'est une revue française de reportage qui vient de fêter ses 12 ans et sort une nouvelle formule. En fin d'émission, on passera un coup de fil à René Jackson Nkowa. C'est lui qui rédige l'infolettre de Mondoblog, la plateforme des blogueurs francophones de RFI, fièrement portée par l'équipe de l'Atelier des médias.
Atelier@rfi.fr.
Bonjour Marion Quillard.
Bonjour.
Quand un magazine fait une nouvelle formule, c'est souvent qu'il s'essouffle et souhaite se relancer. Est-ce aussi le cas pour la revue 21 ?
C'est pour ça que nous, on ne parle pas de nouvelle formule, on parle de nouveau 21, de cette envie de grandir avec nos lecteurs, tout simplement. C'est vrai que la revue, elle avait 12 ans, elle a été lancée en janvier 2008. 12 ans, c'est tout un contexte qui change, des nouvelles revues qui sortent, le podcast a fait son irruption dans le milieu de la radio, la série dans le milieu de la télé. Il fallait que nous aussi, on re-questionne nos façons de raconter des histoires, de réinventer des modes de narration différents. Et donc, ça nous paraissait tout à fait sain, finalement, et stimulant intellectuellement, éditorialement, de repenser et le fond et la forme de la revue.
Tout en conservant les fondamentaux, j'imagine.
Les fondamentaux restent les mêmes. 21, ça reste une revue trimestrielle que vous trouvez en librairie, sans publicité, avec que du long format. Une revue totale aussi. Donc, on mêle et la photo et le texte et la bande dessinée pour raconter des histoires sur la longueur et avec ce lien très intime avec et les lecteurs et les gens qu'on rencontre sur le terrain. On aime raconter des histoires très incarnées, très humaines pour pouvoir emmener le lecteur, le prendre par la main, l'emmener sur le terrain et lui dire « Viens, on va te raconter une histoire ». On va aller ensemble, que ce soit dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou en Bolivie ou en Ouganda, et on va te raconter une histoire qui va t'intéresser, parce qu'elle va t'émouvoir, parce qu'elle va te surprendre, parce qu'elle va te mettre en colère peut-être. Voilà.
Je vous propose qu'on écoute ensemble une archive de quelqu'un que vous connaissez bien, le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, cofondateur de la revue 21. Il était au micro de l'Atelier des médias de Philippe Couve en février 2008.
Nous avons voulu revenir à la base du journalisme qui est toute simple, c'est y être, voir, entendre et raconter. Et ça, malheureusement, ça ne se fait plus aujourd'hui. D'où la création de 21, dont le principe essentiel est le journalisme, le reportage, le récit. Et sur des formats qui sont totalement inusités aujourd'hui. Ce qu'on constate, et ce qu'en fait est très novateur, c'est que là où la presse résonne de plus en plus aujourd'hui sur la notion de cible, d'acheteur, de marketing et de pur commercial, nous avons fait le pari du lecteur, de la personne qui est curieuse, qui a envie d'apprendre, de comprendre et d'être sur place, puisque le journaliste lui donne, lui propose. Et ce qu'on constate au bout de 15 jours, c'est que le lecteur existe. Et ce lecteur-là, ça n'est ni un homme, ni une femme, il n'est pas jeune, il n'est pas vieux, il n'est pas riche, il n'est pas pauvre. Il est lecteur et ça regroupe beaucoup de gens dont en fait les journaux ne veulent plus considérer l'existence.
Patrick de Saint-Exupéry, deux semaines après le lancement du premier numéro de 21, il y a 12 ans maintenant, une réaction à ses propos ?
Ça me touche forcément d'entendre sa voix et aussi de me rendre compte qu'on est complètement raccord sur ce qu'on veut pour cette revue. Je pense qu'un journal, une revue, ça n'est rien d'autre qu'une relation entre des gens qu'on appelle des journalistes et des gens qu'on appelle des lecteurs. Et cette relation, elle doit évoluer, elle doit grandir, elle doit vieillir aussi parfois. Et là, ce qu'on fait, c'est ça, c'est essayer de repenser cette relation avec nos lecteurs, de la faire un peu bouger parce que le temps a passé. 12 ans, c'est énorme pour la vie d'une revue comme celle-ci. Et donc, il fallait qu'on remette un peu de désir, d'impatience, d'envie dans cette relation-là avec le lecteur.
Il y a 12 ans, vous aviez 23 ans. J'imagine que vous terminiez peut-être vos études de journalisme.
Moi, j'étais pas là pour le lancement de 21.
Vous n'étiez pas là
21.
Pour le lancement, justement.
Je suis arrivée juste après le lancement de 6 mois, qui est la revue cousine en photojournalisme de 21. Moi, je suis arrivée en 2011, donc 3 ans après. Donc j'étais pas là pour le lancement de 21.
Alors ce qui est intéressant, c'est que depuis 12 ans et dès le lancement, la proposition éditoriale de Patrick de Saint-Exupéry et de Laurent Beccaria, les deux cofondateurs de 21, c'était de rassembler les familles du récit, donc photos, textes, illustrations graphiques et BD, Et on retrouve encore ça dans ce dernier numéro là de l'hiver 2020, qui est le numéro 49.
Oui, on y tient beaucoup. En fait, tous les moyens sont bons pour raconter de bonnes histoires. C'est-à-dire que des choses passent très bien dans une bande dessinée, d'autres très bien en photo, d'autres très bien en texte. Chaque format a sa justification dans une revue telle que 21, et on reste la seule revue totale comme ça dans le paysage aujourd'hui où on peut envoyer un dessinateur 3 semaines, 1 mois sur le terrain pour raconter une histoire sur 30 pages.
Il faut des moyens. C'est une liberté de temps
d'autant plus que
se donne 21.
Absolument, et d'autant plus qu'on n'a pas de publicité, encore une fois. Donc on ne vit que grâce à nos lecteurs, qu'ils soient acheteurs en librairie ou abonnés à la revue. Donc c'est des budgets, oui, énormes, qu'on ne consacre qu'à ça. Chaque fois qu'un lecteur met 16 euros pour acheter la revue 21 en librairie ou en s'abonnant, c'est de l'argent qui est réinjecté dans le reportage pour les journalistes.
Alors parlons des gros changements de cette nouvelle formule, même si vous ne l'appelez pas comme ça. Et déjà dès la une de 21, excite le sous-titre « L'information grand format ». Il est question maintenant de quelques mots. Dans l'intimité du siècle, qu'est-ce que cela veut dire ?
Ça veut dire que l'information grand format, c'était très novateur en 2008, à un moment où tous les médias faisaient de plus en plus court dans leurs propositions éditoriales. Et aujourd'hui, en 12 ans, le paysage a changé. Beaucoup de magazines font du long. Donc le long format n'est plus distinctif. Par contre, ce qui reste pour nous très important, c'est le mot intimité, qui a toujours été dans l'ADN de la revue, puisqu'on passait toujours par des histoires très incarnées, très humaines, pour raconter des histoires. Et le rapport au siècle, parce qu'on veut muscler dans ce nouveau 21 le rapport à l'époque. C'est-à-dire qu'on veut petit à petit, à la fois donner plus de clés aux lecteurs pour comprendre le monde dans lequel on vit. Donc ça passe par beaucoup plus d'éclairage autour des récits où on fait intervenir des philosophes, des géographes, des penseurs du monde d'aujourd'hui. Et ça passe aussi par une liberté de forme et de ton qui nous semble vraiment importante. Donc à la fois de l'humour. Dans ce numéro, on publie un papier de Patricia Touranchot sur un braquage raté de Kim Kardashian à Paris. Kim Kardashian étant cette star d'Instagram américaine
de télé-réalité.
Voilà, qui portait des bijoux, une bague à 4 millions notamment de dollars.
Et qui a été braquée par des papy-braqueurs.
Des papy-braqueurs qui avaient 60-70 ans, qui sont arrivés en vélo dans son hôtel pour pouvoir la braqué en pleine nuit, qui sont repartis. Il y en avait un qui avait un problème au cœur, qui a failli tomber de son vélo, une partie des bijoux sont tombés, et ils se sont fait choper évidemment tous. Et ces papys qui pourraient être nos papys à nous, nous font évidemment beaucoup rire.
Et c'est un article de Patricia Touranchot, qui est une journaliste qui travaille notamment pour Libération sur les questions police-justice, et que vous êtes allée chercher spécifiquement pour cet article.
Oui, et c'est un peu spécifique aussi de 21, c'est-à-dire que tous les auteurs qui publient chez nous ont un investissement personnel, une relation personnelle à leur sujet qui est très forte. C'est pas un sujet qu'on fait comme ça parce qu'on a lu un papier, parce que on a fait une rencontre un peu vite fait. C'est souvent des gens qui portent leur sujet depuis des années. Patricia Touranchot, ça fait 30 ans qu'elle bosse avec les bandits, avec les flics. Elle a développé du coup et un réseau et un vocabulaire, une gouaille. Là, c'est un papier qui est vraiment écrit à la Audiard.
Qui est bavard d'une certaine
façon. Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui fait le charme vraiment de ce papier, que j'aime beaucoup. Un autre exemple, je peux vous parler, si vous voulez, d'une grosse enquête qu'on publie sur les Ouïghours en Chine, dont on sait qu'ils sont persécutés. On sait qu'il y a des camps dits de rééducation qui sont installés dans le Xinjiang, donc à l'ouest du pays. Mais on sait très peu que des millions de citoyens Han chinois sont allés surveiller dans leur maison les familles ouïghours pour pouvoir les dénoncer si besoin. Et ça, c'est un papier, une grosse enquête qu'on publie, qui a été écrite par un anthropologue américain, qui du coup a passé tout son terrain de recherche là-bas, qui connaît vraiment très très bien la région, qui parle ouïghour, qui parle mandarin. Et du coup, ça c'est pareil, c'est un article que n'importe qui ne pouvait pas écrire, c'était vraiment lui ou personne, quoi.
Donc l'idée, c'est à chaque fois d'aller chercher les personnes qui font autorité, ou en tout cas des gens qui connaissent leur sujet, qui sont spécialistes, qui sont capables de faire de l'immersion. Et il faut rappeler que 21, actuellement, n'a que 3 journalistes dans son équipe, et que donc vous faites appel à des contributeurs extérieurs.
On est une toute petite équipe qui fonctionne de manière très artisanale, et ce depuis le début. C'est vraiment fait à l'huile de coude, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Et on dépend évidemment de tout un réseau de contributeurs, qu'ils soient journalistes, écrivains, auteurs de documentaires, photographes, encore une fois dessinateurs. On dépend d'eux pour exister, pour produire. Et l'intérêt de ça, c'est une limite, parce qu'évidemment on est tout petit, donc on est soumis à une charge de travail assez élevée. Mais c'est une chance aussi, parce que du coup on dépend des histoires qui remontent du terrain. Donc nos idées viennent pas de notre bureau à la République, Paris 11e. Nos idées viennent du terrain, et ça c'est vachement important pour pouvoir avoir des histoires qui remontent, qui sont pertinentes, parce que le journaliste qui est basé à Palerme sait ce qui se passe à Palerme et peut nous faire remonter les idées.
Marion Quillard, co-rédactrice en chef de la revue 21, à la une du dernier numéro, une enquête, une grande enquête qui fait l'ouverture, les 30 premières pages de cette revue. C'est un reportage de Marion Touboul intitulé « Dans la tête d'un pilote de drone ». Elle a suivi un pilote français qui s'entraîne dans une base de l'armée américaine dans le Nevada à piloter un drone.
Absolument, c'est un papier que je juge exemplaire de ce qu'on veut faire dans la revue, parce que on plonge vraiment dans la tête de deux pilotes. L'un est français, l'un est américain, qui vont apprendre à piloter des drones à distance, et donc potentiellement à tuer à distance depuis une base basée dans le Nevada, à quelques kilomètres de Las Vegas. Et au-delà de tous les questionnements éthiques qu'on peut imaginer, puisque évidemment ces pilotes se demandent si toute cette nouvelle guerre est légitime, si c'est vraiment ça la guerre de demain, il y a tout un aspect que je trouve très physique, très charnel dans ce papier, où finalement on comprend ce que c'est que de faire la guerre assis, avec un joystick, un écran. Et ce sont quasiment des ouvriers, en fait, de la guerre. C'est des gens qui font quasiment les 3-8. Et donc, il y a ce truc vraiment d'avoir des courbatures, de pas pouvoir aller aux toilettes, de pas pouvoir... Toi, c'est vraiment très, très bien compté, je trouve, dans le récit de Marion Touboul. Et une fois qu'on a plongé avec ces deux pilotes, on comprend mieux, je pense, ce que ça veut dire. Et on comprend mieux ce que ça veut dire pour la guerre qu'on mène, nous, en France, puisque à partir de décembre dernier, décembre 2019, la France a commencé à tirer depuis des drones qui étaient basés au Sahel, qui étaient basés à Niamey, au Niger. Donc ce sujet a vraiment une actualité très forte qu'on voulait raconter.
La place de la photo est maintenant confirmée dans 21 avec un cahier central en papier glacé. Et c'est un reportage de Louis Palou, photojournaliste canadien que nous avions, nous, l'atelier des médias de RFI, interviewé à Visa pour l'image à Perpignan en septembre 2019. C'est aussi ça l'idée, de pouvoir coucher sur plusieurs pages, voire une dizaine, une vingtaine, une trentaine de pages si nécessaire, de la photo d'actualité.
Oui, il y a toujours eu un portfolio dans 21, mais là, effectivement, le papier a changé pour mettre la photo en majesté. On avait envie vraiment de ce papier de qualité pour pouvoir raconter nos histoires en photo de la meilleure manière qui soit. Et effectivement, là, on plonge avec Louis Palou au pôle Nord. Voilà. Et l'idée étant de comprendre ce qui s'y joue, puisque maintenant, avec le réchauffement climatique, des nouvelles routes se sont ouvertes, des routes commerciales, mais aussi des routes potentiellement militaires. Et donc, chaque pays limitrophes s'organisent pour pouvoir faire face à un ennemi qui pour l'instant est encore un peu imaginaire, mais chaque pays s'entraîne dans des conditions qu'on imagine terribles, dans le froid et l'extrême froid.
Vous venez d'évoquer la question climatique, justement. Il y a eu maintenant une rubrique dédiée à la crise climatique. Pourquoi seulement maintenant, aurais-je envie de dire ?
En fait, avant, la revue commençait par tout un tas de petits formats d'actualité qu'on a décidé d'enlever pour pouvoir justement commencer par ce grand récit sur les pilotes de drones, notamment. Et là, il fallait qu'on réinvente ces petites rubriques, et la question climatique était tellement centrale que ça nous paraissait évident qu'elle pouvait pas être juste traitée de temps en temps dans des grandes histoires, mais qu'elle nécessitait une place à part, entière, nécessaire. Et donc là, on fait tous les 3 mois, dans chaque numéro, un point sur ce qui s'est passé en termes de catastrophes naturelles et en termes de décisions humaines. Donc on met face à face la Terre et les hommes, et on regarde ce qui s'est passé pendant 3 mois.
Plus de 200 pages dans chacun de vos numéros. Combien de propositions recevez-vous chaque mois ou chaque année ? Une idée ?
C'est compliqué de vous répondre. Je dirais qu'on reçoit une bonne trentaine de propositions venues sur la boîte mail proposition@21.fr.
Donc chaque mois, voilà. En gros une par jour.
Voilà, c'est ça, à peu près. Plus les gens qu'on rencontre, qu'on connaît, qu'on relance, avec qui on discute, les documentaires qu'on peut voir, tout ça, ça arrive en plus. Mais ce que je dirais quand même, c'est que le nombre de propositions diminué, je dirais, il y a à peu près 5-6 ans.
Pourquoi ?
Et je pense que c'est lié à la précarisation du métier et du coup au fait que les pigistes, qui sont donc payés à l'article, ont moins la liberté aujourd'hui qu'il y a 10 ans de se plonger dans un sujet pendant 3 mois. Voilà.
Pourtant, vous affirmez
c'est une économie différente.
Vous revendiquez le fait de bien payer
les gens
qui écrivent pour vous.
On paye bien et en même temps, on a un grand investissement. Et donc les gens qui ont besoin de rentabilité parce qu'il y a un loyer à payer peuvent pas trop se permettre. Donc je pense que vraiment on a pu observer en l'espace de 12 ans quand même une précarisation du métier qui était assez importante.
Et comment choisissez-vous justement parmi les propositions qui vous parviennent ? Y a-t-il des... Voilà, il faut qu'on vous envoie un synopsis plutôt bien écrit.
Oui.
C'est la plume, c'est le fond, c'est
les
le sujet.
Les deux, évidemment. Les synopsis qui marchent le mieux sont ceux qui mêlent justement... Et une plume, effectivement, on voit un regard d'auteur sur un sujet, et le sujet qui nous surprend, évidemment. Quand on est effectivement un peu noyé par les propositions, c'est toujours un bon signe quand on est surpris, quand on a envie de lire plus, quand on a envie de rencontrer la personne. Moi, je dis toujours qu'un récit pour 21, ça doit se penser comme un documentaire de cinéma. Donc, un documentaire, c'est qu'il faut que la caméra soit là au moment où ça se passe. On peut pas arriver après coup si la caméra n'est pas là, ou le micro dans la radio, ça ne se passera pas. Et en plus, un documentaire de cinéma, parce qu'il faut un regard d'auteur sur l'histoire, il faut un regard d'auteur sur le sujet. Et ça, c'est assez rare, c'est assez précieux.
La revue 21, en se lançant il y a 12 ans, a été qualifiée de MOOC, premier de son nom. Donc MOOC, c'est la contraction de deux mots anglais, book et magazine, donc un livre et un magazine. Et donc on a cette dimension littéraire dedans. L'idée que ce soit un beau livre. Et Simon Decreuse, le réalisateur de l'Atelier des médias, me signalait d'ailleurs que l'on voit énormément de revues 21 dans les vides-greniers.
Ah, ça se partage. Bah,
ça c'est se partage
bien.
Et c'est ça se vend, ça se revend.
C'est une très bonne idée. Bah oui, mais de toute façon, l'idée était d'aller chercher les lecteurs là où ils sont, donc en librairie, et du coup de leur proposer aussi un plaisir de lecture, aussi un moment où on est dans son lit, dans son canapé, et au lieu de lire un livre ou une nouvelle, on va ouvrir un 21 et lire un récit. Donc la finesse de l'écriture, elle est essentielle. Elle est évidemment essentielle, elle est très identitaire chez nous. On fait très attention, on édite beaucoup, il y a beaucoup de travail sur l'écriture, ça c'est évident.
Et ça devient un objet journalistique de collection d'une certaine façon.
Oui, je pense qu'on est assez nombreux à avoir des collections de 21 à la maison, parce qu'une fois qu'on en a un, on aime bien du coup en avoir d'autres. C'est vrai que ce sont des beaux objets qu'on aime garder, qu'on aime partager. Il y avait quand même, dans 21 et dans 6 mois d'ailleurs, la revue de photojournalisme, il y a l'idée que ça se partage, que ça se prête, que les enfants, les ados puissent le lire, grignoter une histoire, puis le laisser sur la table du salon. C'est une revue qui vit, c'est un être vivant.
Et la revue 21 revendique 22 000 lecteurs, dont 8 000 fidèles abonnés, ce qui est plutôt honnête.
ce qui est honnête, qui nous permet de vivre surtout, qui est à peu près à l'équilibre. C'est jamais assez parce que nous, on a envie d'être plus connus, d'être plus lus, d'élargir ce socle de très très fidèles parce que quand on regarde les ventes, c'est assez intéressant parce qu'on voit que les gens qui ne sont pas abonnés, qui vont en librairie, l'achètent en général dans la première ou deuxième semaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une horloge interne qui leur dit tous les trois mois, il faut aller en librairie pour acheter 21. Je trouve ça assez incroyable. Donc il y a quand même un réservoir de lecteurs hyper fidèles que j'espère d'ailleurs on surprendra, on étonnera avec ce nouveau 21. Ces gens-là, il faut les garder et il faut pouvoir s'ouvrir, il faut pouvoir aller voir d'autres lecteurs, il faut continuer à aller en rencontre en librairie, ce qu'on fait régulièrement. Il faut aller, qu'on puisse parler de cette revue pour qu'elle soit connue du plus grand nombre.
Alors justement, démographiquement, vos lecteurs viennent principalement de France. Ils ont, selon vos dires, entre 25 et 45 ans et vous souhaiteriez viser davantage les jeunes dont on dit qu'ils achètent de moins en moins de journaux, de magazines, de presse au sens large.
Je ne sais pas si on veut viser. D'ailleurs, ça fait écho à ce que disait Patrick tout à l'heure dans l'extrait. Il n'y a pas de cible marketing, on n'a pas de service marketing, on ne sait pas faire. Par contre, ce qu'on a fait pour réfléchir à cette nouvelle formule, c'était au printemps dernier, on a effectivement lancé un questionnaire pour les lecteurs, pour qu'ils nous disent qui ils étaient. C'est la première fois qu'on le faisait. Et c'est quand même important de savoir à qui on parle, à qui on s'adresse, et effectivement, les chiffres que vous sortez viennent de là. Mais cette étude, on l'a faite nous-mêmes, hein. C'était nous, notre petit questionnaire envoyé aux abonnés, puis aux lecteurs. C'était vraiment fait de manière très artisanale, et il n'y a pas de service marketing derrière tout ça.
Mais vous ne vouliez pas vieillir avec vos lecteurs, c'est ça, en fait, l'idée.
Je pense que l'idée était, mais en fait non, l'idée était de gagner de nouveaux lecteurs, mais quels qu'ils soient. Un lecteur de 60 ans, ça me fait autant plaisir qu'un lecteur de 20 ans. Qu'un lecteur de 20 ans s'intéresse à 21, ça me montre que quand même, on est dans une forme de rapport avec l'époque qui est pertinente, qui fait sens, qui lui parle. Donc ça me fait plaisir. Mais qu'un lecteur ait 60 ans, ça me va très bien.
On ne peut pas ne pas parler de l'épisode Hebdo, du nom de cet éphémère magazine hebdomadaire lancé par les fondateurs de 21 et qui a failli coûter la peau à votre revue. 21 a finalement été racheté il y a un an par la revue Dessinée et les éditions du Seuil. Tout cela est derrière vous et vous pouvez vous projeter vers le futur sereinement.
Tout ça est derrière nous, oui, parce que le temps a passé. Ça fait quand même un an et demi. Ça a été une période vraiment pas marrante, très douloureuse au niveau humain, au niveau... c'était compliqué.
Mais vous n'avez plus votre indépendance totale maintenant, puisque dans le sens où vous avez été racheté par la revue Dessinée et puis par les éditions du Seuil.
Alors après, l'écosystème est quand même assez similaire, puisque avant, on était... 21 et 6 mois étaient dépendants d'une maison d'édition.
Les arènes.
Maintenant, on est un écosystème un peu différent, parce qu'on n'a plus de maison d'édition avec nous, à part au Capital. Mais en tout cas, on fonctionne avec 4 revues indépendantes, sans publicité, qui font un travail un peu similaire à ce qu'on fait. Donc l'écosystème a un peu changé, mais globalement, on reste indépendant, ce qui était quand même très important. Et le Seuil est au Capital à 34%, je crois.
Pour les auditeurs qui souhaiteraient se procurer 21 et qui n'habitent pas en France et donc ne peuvent pas ou en Suisse ou en Belgique et ne peuvent pas se rendre dans la librairie la plus proche, comment procéder ?
Il faut aller sur notre site internet, revue21.fr. Vous verrez, il y a une boutique en ligne où on peut aller acheter au numéro ou s'abonner pour un an, pour deux ans, pour offrir un abonnement aussi. Donc, il suffit d'aller sur internet.
Merci beaucoup Marion Quillard d'être venue dans l'atelier des médias.
Merci à vous.
Je rappelle la revue 21, hiver 2020, qui titre sur Dans la tête d'un pilote de drone, disponible dans toutes les bonnes librairies au prix de 16€. À bientôt.
Merci.
L'atelier des médias, tous les samedis sur RFI.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure normalement de Mondoblog Audio. Mais on va plutôt passer un coup de fil à un mondoblogueur, et pas n'importe lequel, le Camerounais René Jackson Kowa. Salut René, comment ça va à Douala ?
Salut Steven, ça va bien. On a un beau soleil et une belle température qui tourne autour de 28 ou 29 degrés.
Bon, eh bien, ça donne envie quand on voit les températures très froides actuellement à Paris. René, tu viens de te remettre à bloguer après de trop nombreux mois d'abstinence, donc je voulais te dire bravo.
Ah, merci Steven. Le gris, ce n'est pas une sinécure, mais j'ai pris la résolution avec la nouvelle année de me remettre là-dessus et je pense que les choses se passent comme je le souhaite.
Bon, très bien. Si je t'appelle aujourd'hui, c'est parce que c'est toi qui rédiges l'infolettre Les Pépites de Mondoblog, qui rassemble le meilleur des productions de la communauté des mondoblogueurs et des mondoblogueuses. Signalons d'ailleurs à nos auditeurs que cette lettre d'information, qui est envoyée par mail, fait maintenant partie de l'offre officielle des newsletters de RFI.
Et oui, en effet, depuis le début de cette année, nous avons eu la chance de passer de notre petit cocon Mondoblog pour la diffusion de la newsletter au site de RFI qui nous permet de toucher encore beaucoup plus de d'internautes et surtout qui nous permettra de donner beaucoup plus de visibilité au contenu des blogueurs, des mondoblogueurs.
Donc le principe, c'est que toutes les deux semaines, tu rassembles le meilleur des productions. Tu mets également les mondoblogs audio que nous produisons et qui sont diffusés dans l'émission L'Atelier des médias. Est-ce que tu peux nous dire ce que l'on trouve dans le dernier envoi ?
Alors, le dernier envoi, en fait, c'est une sorte de récapitulatif ou alors de retour sur les productions de l'année dernière. Je ne dirais pas les meilleures productions parce que sur mon blog, il y a des dizaines de billets de qualité qui sont publiés chaque jour. Mais l'idée pour cette édition qui est la première de l'année et la première diffusée sur le site de RFI, c'est de faire un petit récapitulatif de billets qui ont attiré l'attention, qui méritent d'être relus ou lus et qui reviennent sur des thématiques qui ont jalonné l'année dernière.
Très bien. Bah écoute, merci beaucoup René. La prochaine newsletter, c'est pour quand ?
Elle est censée arriver dans vos boîtes le 31 janvier.
Voilà, prochaine newsletter, prochaine infolettre de Mondoblog pour dans une semaine. Donc, pour vous y abonner, rendez-vous sur mondoblog.org ou alors dans la section newsletter sur rfi.fr. Merci beaucoup, René.
Merci, Steven.
C'était donc René Jackson Kowa du blog From Douala with Love. Et je te dis à très vite et bonne journée à Douala.
Merci, au revoir.
Et c'est ainsi que se termine cette émission. Simon de Creuse était comme chaque semaine à la réalisation. Je m'appelle Steven Jambou et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. D'ici là, retrouvez en podcast L'Atelier des médias.